RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauchet.
Il est 19h18 sur RTL et c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonsoir Anne Rosenthal.
Bonsoir.
Avec le fondateur de Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaï. Avec le co-fondateur d'Explicit. Bonsoir Olivier Ravanello. Olivier Mazerelle est avec nous comme tous les jeudis pour notre grand plaisir.
Et moi je suis rien du tout. Bonsoir. Ouais.
Bon, vous avez tourné tellement de choses.
La liste est trop longue.
Exactement. Les sujets ne manquent pas d'ailleurs au menu des états généraux de la bioéthique. Hein. On vous en parle depuis ce matin, évidemment, sur RTL. PMA, GPA, c'était pas prévu, mais finalement, oui. Fin de vie, big data de santé, modification génétique, anonymat des dons. Scientifiques et citoyens ont donc 6 mois pour débattre et réfléchir avant une nouvelle révision de la loi de bioéthique. La science avance de plus en plus vite, laissant les législations à la traîne. Mais quand on voit des sondages où les Français sont favorables, par exemple, massivement à la PMA, même d'ailleurs bizarrement à la GPA, ou à l'euthanasie, est-ce que nos hommes politiques n'ont pas un train de retard, selon vous, sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret ?
Les divisions ressurgissent, vivent. Olivier s'inquiète de ces nouvelles attaques contre la famille et contre la vie qui sont en préparation. Dédé craint surtout que ce ne soit le top départ de nouvelles manifestations de haine. Le sujet le plus débattu en ligne, c'est celui de la PMA et de la GPA. Mais quid de la fin de vie, s'inquiète Céline. Je crains que le sujet ne soit escamoté. C'est surtout que l'éthique s'arrête là où commence le marché, grince d'en bas. Ouais, en gros, c'est les labos qui vont dire sur quoi ils veulent que l'État leur lâche du mou, vu que l'argent gouverne, confirme Filou. Mais non, rétorque Hugo, réfléchir à l'éthique, c'est quoi ? Tout change très vite. Il faut écouter les chercheurs, mais pas que, faciliter les échanges entre ces positions antagonistes, éviter les crispations. En résumé, informer, écouter, débattre. Tu parles, la consultation populaire, c'est une fainéantise des politiques. Leur rôle, c'est de devancer l'opinion, puis de la convaincre. Sinon, on n'aurait eu ni le droit de vote des femmes, ni l'abolition de la peine de mort, ni la dépénalisation de l'avortement, estime Diane. Surtout que dans ces débats, les extrémistes se font souvent beaucoup mieux entendre que la majorité, qui reste silencieuse, remarque Tanguy. Ce président, ce gouvernement se rendront-ils compte qu'ils n'ont aucun intérêt à ménager ces minorités d'activistes qui voteront jamais pour eux. Passons cette loi, qu'on en finisse, balaye Jean-Michel. Fleur pense même que ce débat prouve le côté rétrograde de notre pays. Camille, elle, dit quand même qu'elle préfère réfléchir avant, écrit-elle, d'acheter des gosses et tuer des vieux. Claire, pour finir, rappelle que vous pourrez participer et vous renseigner sur le site qui ouvrira à la fin du mois. Ce sera à l'adresse suivante, etatgeneraudelabioethique.fr.
Allez Anne, est-ce que vous trouvez que les politiques sont à la traîne et qu'en fait la société est beaucoup plus mûre qu'on ne le pense ?
Je ne sais pas si c'est une question de mûre ou pas mûre, mais ce qui est vrai, c'est que dans chaque enquête d'opinion, il y en a eu une pour La Croix, il y en a eu une aussi dans l'Express sur ce que veulent les moins de 40 ans. C'est vrai que la société se prononce, enfin a fait tomber les tabous bioéthiques, en tout cas dans la tête des sondés. Après, moi j'avoue que j'aborde cette consultation avec à la fois un vrai enthousiasme et une angoisse. Un enthousiasme parce que je trouve ça très important de débattre autour de cela, et puis vraiment passionnant.
Ah oui, c'est passionnant, il y a plein de sujets dans les sujets.
Il y a plein de sujets dans les sujets, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qui ne correspond pas forcément à la même chose, de réfléchir à ces choses-là, qui ne sont pas d'ailleurs certains veulent le renvoyer toujours à la religion contre le reste, c'est pas vrai. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant qu'en France...
C'est d'ailleurs non plus les modernes contre les réacs, c'est pas ça non plus. D'ailleurs.
Et en France, qui est un pays quand même beaucoup moins religieux ou catholique que l'Espagne, par exemple, les questions bioéthiques sont beaucoup plus débattues et nous sommes moins avancés, entre guillemets. Après, mon angoisse, c'est que ces choses-là ne soient pas débattues dans la sérénité et je dirais des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, on peut renvoyer un camp à la réaction ou à l'ultra-religion, etc. Mais de l'autre, quand on essaye de tenir des propos comme ceux d'Elisabeth Badinter, qui depuis assez longtemps développe plutôt un discours libéral sur ce sujet, en faveur d'une GPA éthique et réglementée, etc. En retour, elle se fait vraiment traiter de docteur Moreau, de tous les noms. Je trouve que ce serait quand même assez intéressant de rester serein dans ces débat passionnant et c'est vrai important d'un point de vue civilisationnel.
Olivier Mazerolle, vous souhaitez où d'ailleurs dans ces débats? Vous êtes plutôt parmi les gens sondés qui veulent que les choses avancent, entre guillemets, ou se libéralisent, je sais pas comment dire.
Ça dépend des sujets. D'abord, chacun aborde le débat avec ses propres convictions. Sur ce qui est de la PMA, par exemple, j'ai toujours pensé qu'à partir du moment où le mariage pour tous était adopté, la PMA, en tout cas pour les couples, et pour les femmes en tout cas, était, pour les couples homosexuels femmes, allait de soi. Bon, maintenant, il y a, sur tous ces sujets-là, et c'est bien que que ça dure 6 mois, qu'il y ait des discussions, que tous les milieux sociaux soient impliqués dans la discussion. Sur la GPA, par exemple, il y a effectivement l'aspect commercial qui est absolument odieux, et en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, moi je connais plusieurs personnes qui ont fait appel à cette procédure pour avoir des enfants, et qui sont des parents extrêmement aimants. Et par conséquent, est-ce que les enfants seront handicapés par la suite parce qu'ils n'auront pas eu un papa et une maman? Franchement, je n'en sais rien. Je pense que l'amour donné à un enfant vaut toute la bisexualité. Alors, le complément, effectivement, ça... Bon, c'est quelque chose d'important, mais enfin, moi je fais partie des enfants qui ont été élevés sans père, parce que la nature en a décidé ainsi. Mmh. Le père est mort très très tôt, bon, je ne suis pas handicapé pour
la vie. L'altérité, vous l'avez trouvée ailleurs.
Voilà, bon, bah oui, voilà, ça construit une personnalité. L'euthanasie, en revanche, je suis plus réticent, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attitudes de personnes qui militent en faveur de la mort.
Et ça me le fait droit peur. À mourir dans la dignité, oui, c'est le, pas
oui,
la
oui,
même
oui,
chose.
Mais parfois ça devient excessif dans l'autre sens. Je me souviens d'un grand professeur qui avait été le premier d'ailleurs à dire qu'il avait pratiqué l'euthanasie. C'était le professeur Schwarzenberg. Et je me souviens d'un confrère qui était un de ses clients qui m'a dit, mais à certains moments il est tellement enthousiaste qu'on se demande s'il est là pour nous guérir ou pour servir de cobaye. Bon, c'est peut-être un peu excessif aussi, mais si vraiment on tient à l'euthanasie, c'est-à-dire le droit de décider de sa mort, il y a tous les moyens aujourd'hui de mourir sans impliquer quelqu'un d'autre dans la satisfaction de son désir de mourir.
Oui et non.
Oui, bah,
non. On a reçu ici Anne Berg qui est partie mourir en Belgique avec cette maladie de Charcot qui l'handicapait. Elle expliquait très bien qu'elle ne pouvait pas mourir ici.
Je suis désolé. La possibilité de mourir, je ne vais pas ici donner les recettes, mais enfin, c'est facile. Aujourd'hui, si on veut mourir, on peut mourir.
Ouais, je ne suis pas convaincu non plus.
Vous allez dans une pharmacie, vous trouvez tout ce que vous voulez, évidemment, sans dire pourquoi. Et l'utilisation, vous avez l'intention d'en faire, mais vous pouvez mourir aisément.
Heureusement, je pense que non, c'est un peu plus compliqué que ça.
Non, ce n'est pas si compliqué.
Moi, il me semble que dans ce débat, il y a plusieurs choses qui se mélangent, et c'est ce qui m'inquiète. Il y a ce qui, pour moi, relève de la liberté individuelle, que l'on décide de vivre avec un homme, avec une femme, lorsqu'on est un homme ou une femme, qui a alimenté le débat du mariage pour tous, relève de la liberté individuelle.
Oui, mais là, ce n'est pas dans le débat biologique.
Juste pour suivre le raisonnement. Ouais. Qu'ensuite, on permette d'adopter à des couples qui soient hétérosexuels ou homosexuels, il faudrait qu'on fasse la démonstration qu'un couple hétérosexuel est forcément un havre de paix et d'épanouissement pour les enfants. Il suffit de voir combien de personnes ont subi des violences au sein de leur famille, des viols au sein de leur famille, pour être convaincu que ça n'est pas une garantie de rien.
C'est vrai aussi, mais alors là, pareil, il s'agit pas d'adoption, là, Olivier. Là,
Et donc, on va à la dernière étape. Ça, c'est de la liberté individuelle. Il y a autre chose qui est lorsqu'on commence à toucher à la vie, et si on rentre là-dedans, il faut bien avoir conscience qu'on va poser des choses qui seront irréversibles. Et je serais favorable à un débat qui n'alimente pas On refait le monde, qui n'alimente aucun commentaire sur Twitter. Je voudrais que cette commission et que ce débat se fassent à huis clos. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réfléchir à des questions philosophiquement aussi impliquantes pour nos sociétés et pour le genre humain en étant en permanence soumis à un potentiel commentaire attaque sur Twitter parce qu'une de vos phrases dans une commission va sortir.
Vous avez raison, Olivier, mais de toute façon, à l'issue de ces débats, de toute façon, ça donnera lieu à des lois qui seront elles-mêmes débattues.
C'est autre chose. Ah bah, le législateur aura fait son travail, il aura trié. Ce qui est important, c'est avoir la capacité de réfléchir sereinement. Ce qui, aujourd'hui, dans le débat politique, l'Assemblée nationale n'est plus ce lieu-là, les commissions ne sont plus ces lieux-là, et ça manque.
Je comprends, sur des
questions aussi importantes que ça, encore une fois, même si ça peut paraître étrange, je serais assez favorable au huis clos.
Alors, pour répondre à votre question,
Alexandre Malafaï,
que le politique est un peu suiviste, mais c'est assez cohérent. D'abord parce que la société évolue très vite, et d'une part, et deuxièmement, parce que la science, la technologie, la recherche des entreprises, tout ça évolue en temps réel, et le politique, finalement, il suit, mais avant de commencer à prendre des décisions, il faut qu'il observe un peu ce qui se passe, et puis on est là, on est sur des sujets fondamentaux. Alors, il y a deux volets. Il y a un volet qui est le volet scientifique et technologique, qui est très important, et après, il y a le volet du domaine du sociétal, bien sûr, tout ça est lié à des progrès de la bioéthique et autres. Voilà. Et ces deux sujets sont à la fois mélangés et en en même temps distincts. Et il ne faut pas se tromper non plus en jeu. On va beaucoup se concentrer sans doute sur des sujets sur lesquels il y aura peu de raisons et beaucoup de passions, GPA, PMA, fin de vie, sur lesquels il faut se poser de vraies questions et sur lesquels il y a des lignes à faire bouger, c'est évident. Mais les vrais sujets de fond qui vont être abordés et qui vont certainement avoir beaucoup plus d'influence dans notre vie dans les
par
années...
Par exemple,
bah, l'intelligence artificielle.
On y revient dans un instant, c'est ça, donc je voulais pas.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Faugier.
Et on reprend notre débat dans Refait le monde avec Olivier Ravanello, Anne Rosenchère, Olivier Mazerolle et donc vous, Alexandre Malafaï. Et l'intelligence artificielle débattue dans ces états généraux de la bioéthique.
Donc dans ce domaine-là, en tout cas, il va falloir pratiquement tout écrire, parce que la révolution numérique, elle n'en est qu'à ses débuts, mais on voit bien la manière dont l'exploitation des données dans tous les sens fait l'objet d'une prédation réelle et fondamentale. Alors on a vu que l'Union européenne, avec l'impulsion de la France et de la CNIL française, essaie de réguler un petit peu tout ça, mais on en est au début. Mais dans le domaine éthique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gestion de nos données par les réseaux sociaux, par Facebook et compagnie, dans le domaine effectivement de l'exploitation de toutes ces données, il y a tout à écrire, et là c'est bien qu'une commission comme celle-là, avec les autorités qui sont à l'intérieur, s'en préoccupe et se plonge effectivement dans ces sujets-là pour essayer de voir comment on peut apporter un peu de régulation et de contrôle et de sens. Parce que, comme je le disais, ces questions-là vont avoir beaucoup plus d'impact sur nos vies à moyen et long terme que les questions qui touchent à la GPA, à la PMA.
Alors, juste pour revenir quand même à la PMA, qui est un sujet d'actualité, c'était dans les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le comité d'éthique s'est déjà prononcé. Est-ce que maintenant de passer par la révision bioéthique, est-ce qu'à un moment donné, on y va, non ? Parce qu'au bout d'un moment...
On arrive à un thème que vous avez envie de traiter sur d'autres sujets, mais qui est la méthode Macron.
On y vient juste après, la méthode Macron.
Mais on est en plein dedans. Mm-hmm. Mais je crois qu'il a raison sur ce plan-là, parce que déjà, ça atténue le caractère conflictuel qui peut exister autour de ces questions. Si chacun a la possibilité de s'exprimer, il veut impliquer d'ailleurs les représentants des religions également dans ce débat. Ça ne veut pas dire qu'ils obtiendront satisfaction. Ça veut dire simplement qu'ils auront le sentiment d'avoir pu exprimer leur point de vue. Et je crois que sur cette question extrêmement importante, c'est crucial que chacun ait le sentiment d'avoir pu s'exprimer, d'avoir été entendu. Après, bon, il y a une décision à prendre qui ne peut pas donner satisfaction à tout le monde, bien évidemment.
C'est vrai, un bémol près, c'est que si on se souvient ce qui s'est passé pour la loi sur le mariage pour tous, au départ, donc c'était dans le programme de François Hollande, c'était très consensuel dans la société française, il arrive, il en fait un grand débat. Alors là, à l'Assemblée nationale, et au bout de 6 mois, ça devient les barricades, chacun retranché dans son camp.
Mais souvenez-vous, les religions ont dit on a été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles en l'espace de deux heures, c'était bazardé.
Voilà. Bon. Après, moi, ça ne me choque pas que, de toute façon, ces questions-là soient en effet mises dans un... Comme, de toute façon, il y avait la révision des lois bioéthiques, ça tombe quand même plutôt bien pour lui, et qu'à la fin, il ait cette possibilité de s'appuyer sur quelque chose qui aura été fait dans le est décidé dans un débat.
Non mais c'est pertinent que c'est un avis. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est leur rôle. Enfin, ces questions-là, elles touchent quand même très très clairement à des réflexions éthiques qu'il faut poser sur le temps long. Alors qu'après, on consulte les autorités religieuses, bien sûr que ça a du sens.
Entre autres.
Mais pas que, bien sûr, mais il faut aussi les consulter, d'abord parce qu'il y a une partie des gens qui sont concernés, puis deuxièmement parce que les religions, quelque part, elles ont aussi l'avantage du temps, et qu'elles ont l'expérience de l'histoire de l'humanité. Donc elles peuvent aussi sortir un tout petit peu du jeu social, sociétal, politique.
C'est vrai que d'ailleurs, la première GPA, c'était dans la Bible. D'ailleurs.
Oui, c'est pas faux.
Sans
les moyens scientifiques.
Sans les moyens scientifiques.
Vous parliez de Marie, là, je me trouvais que c'était
vrai. La servante qui portait pour...
Oui, tout à fait. Voilà, mais au-delà du prosélytisme que certains peuvent faire dans le cadre de leur conviction religieuse, c'est aussi une parole qui prend un peu de recul et qui peut montrer un petit peu le sens de l'humanité, de l'histoire et d'interpeller en tout cas sur certaines questions qui sont très sensibles.
Allez, on parle de la méthode Macron puisqu'on a déjà un peu entamé à travers ce sujet dans un instant.
On refait le monde
dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Faugier.
19h38, donc on refait le monde avec Alexandre Malafaï, Olivier Ravanello, Anne Rosenchère, Olivier Mazerolle. Ça a été constructif parce que l'attente était longue. Vous avez entendu tout à l'heure Sébastien Lecornu en visite déminage de 3 jours à Fessenheim. La plus vieille centrale nucléaire de France doit fermer donc d'ici un an, dès que Flamanville ouvrira. Après Notre-Dame-des-Landes, c'est un nouveau dossier explosif pour le gouvernement. Alors vous applaudissez à chaque fois la méthode Macron, vous dénoncez des effets de com' sur les réseaux sociaux, Benoît.
Waouh, même ceux qui sont contre la décision de l'exécutif soulignent la méthode employée par Macron. Voilà, quand t'as du courage de prendre une décision sur les dossiers qui durent, que les gouvernants précédents n'ont jamais tranché, ça change tout, applaudit Clément. Beaucoup sont d'accord, hein, grâce à sa méthode de concertation, Macron a su trancher les dossiers épineux. Que l'opposition reste dans son bashing, la France avance, s'émerveille Mathilde. John rétorque que le président avance surtout au gré du vent et des sondages. Il change d'avis, il renie ses promesses, marketing pour plaire aux Français, dit-il. La méthode de la belle reculade, ricane aussi Jackie. N'empêche, malgré ses réformes, ou grâce à ça justement, il bénéficie de la confiance des Français. Alors est-ce la méthode ou le fait qu'il sache parler à chacun? En tout cas, je vois que ça passe, constate Clara. J'ai de gros doutes, moi. Le coup près va vite tomber, prédit Jean-Luc. C'est peut-être pas un génie de la politique, il a en tout cas beaucoup de chance. Ou alors il y a que des tocards en face, corrige Sisyphe. Quelle chance, il piétine un référendum, une consultation populaire locale. Je conteste cette méthode macroniste car elle valide celle des zadistes. Par la violence, on s'impose, tacle Vincent. Viviane, pour finir, pense qu'au-delà de la méthode, certains ont du mal à se faire à ce Macron, ni de droite, ni de gauche, ni pour, ni contre. Ils ont plus de repères, les pauvres.
Olivier Ravanello, donc cette méthode, on y va, on démine, on prend le temps, même si on a déjà décidé avant. C'est efficace ou c'est prendre un peu les gens pour terminer.
Non, je ne fais pas la même, je fais pas la même lecture de vous, juste des faits. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que c'est une décision qui est prise comme elle aurait dû être prise dès le départ. C'est-à-dire que pour moi, ce genre de dossier relève du régalien. Est-ce qu'il faut ou non un aéroport? C'est une vision stratégique à 20, 30 ou 40 ans. C'est une décision qui implique l'économie, les mouvements des populations à l'intérieur d'un pays. Et ça ne peut pas être pris par une consultation locale. Ça ne peut pas être le résultat de deals ou d'accords. Et ça ne peut pas être le résultat d'une volonté égotique d'élus régionaux qui ont envie que leur ville brille un peu plus. Si on avait fonctionné comme ça, on n'aurait pas eu le TGV et on continuerait de faire Paris-Marseille en train corail avec wagon-couchette. Donc, moi je suis assez partisan que sur certains dossiers, les responsables politiques qui ont été élus, qui sont entourés par des gens brillants, capables de faire des analyses sur de très long terme, assument leurs responsabilités et disent, voilà, à Nantes, on a besoin d'un aéroport ou on n'en a pas besoin. Et a fortiori, quand vous êtes dans un pays où l'argent ne coule pas à flot dans les caisses de l'État et où quand vous faites un choix de cette importance-là, c'est vraiment qu'il doit être nécessaire. S'il y a une autre solution un peu moins onéreuse, ben, qu'on prenne une autre solution. Mais que la méthode qui a jusqu'ici été utilisée, qui a fini par être cet acte de lâcheté politique absolue, qui est de dire je vais faire une consultation, il y a une chance sur deux pour qu'au final la population dise ce qui m'arrangerait, c'est-à-dire laissons tomber. Le résultat, c'est qu'on est obligé d'avoir, à un moment donné, quelqu'un qui tranche dans le vif et qui apparaît comme tranché. C'est pas qu'il tranche, c'est qu'il remet le dossier à plat et qu'il dit on a besoin ou on n'a pas besoin.
D'accord.
Et a priori,
donc c'est une forme de pragmatisme politique, quoi.
De pragmatisme et surtout de réassumer ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire diriger le pays, non pas à la petite semaine, mais en réfléchissant à de grands objectifs et à des objectifs un peu plus longs. Que sur le reste, comme il est en train de le faire avec Theresa May, il soit dans le deal permanent, en bon banquier d'affaires qu'il est et qu'il a été formé. Je te donne ceci, tu me donnes cela en échange. Ça, je préfère, parce que ce genre de deal, vous pouvez le reprendre dans 6 mois, vous renégociez un peu plus, un peu moins, la porte reste en permanence ouverte. Donc cette méthode Macron, je la vois plus là. Le deal au bon endroit et de temps en temps, des décisions stratégiques.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Alexandre Malafaï.
Il y avait quand même une nécessité de respecter les enjeux de gouvernance locale. Et je crois que l'exécutif, qui était dans une nasse absolument infernale, et c'est sans doute une bonne ou en tout cas la moindre des mauvaises décisions politiques à court terme, à moyen long terme, on m'expliquera quand même l'intérêt stratégique de maintenir un aéroport en centre-ville. On pourrait disserter longtemps sur cette question-là. Mais en tout cas, je pense que sur ce coup-là, voilà, c'est la solution qui a été prise. Mais ils étaient très contents d'avoir inventé un plan B. S'il n'y avait pas le plan B de la méthode Macron, elle a prévu un plan B. C'est-à-dire tout d'un coup le réaménagement, en disant on va. Et c'est la piste d'atterrissage de cette situation. Dans le cas
le
de.
Plan B, c'est
le réaménagement de l'aéroport actuel.
De Nantes,
C'est ça le plan B.
Et il a fallu 25 ans pour penser au plan B.
Non, mais je pense que très sincèrement, s'il n'y a pas 200 zadistes, on ne va pas refaire le débat. S'il n'y a pas 200 zadistes, l'aéroport aurait été fait depuis longtemps. On est là-dessus, on ne va pas y revenir. Après, c'est une une méthode de concertation, c'est une méthode d'écoute, elle marche de manière générale, il faut faire avec les gens, alors après qu'on tranche dans leur sens ou pas, mais en tout cas il faut faire. Ce qu'ils font sur Fessenheim s'inspire de la même méthodologie, ça a du sens, et pour le coup c'est extrêmement important, parce que ce qui se joue derrière, c'est d'abord il y a quand même une autre organisation qui est extrêmement puissante, c'est la CGT Énergie, qui peut provoquer pas mal de dégâts dans un pays comme la France, elle l'a démontré, donc il va falloir effectivement trouver un certain nombre de solutions, parce qu'il y a 2000 personnes qui sont concernées en termes d'emploi direct, c'est absolument considérable, et puis parce que derrière il y a un autre plan qui consiste à pas seulement fermer que Fessenheim. Donc si la fermeture de Fessenheim est exemplaire, ça ouvre la voie à un possible démantèlement lent mais déterminé de la filière nucléaire. S'ils foirent complètement le démantèlement de Fessenheim et que socialement parlant c'est un fiasco, ils vont avoir beaucoup de mal à aller au plan 2, au plan 3, etc.
Oui, moi je trouve que c'est plutôt bien joué d'avoir... De toute façon, la situation était tellement enquistée qu'il y avait un risque politique dans les deux situations. Dans un cas, c'était de dire, comme aujourd'hui, quand on a entendu...
L'affaiblissement de l'État, quoi.
Voilà, ils ont capitulé. Et dans l'autre, c'était de dire, finalement, l'écologie, selon Macron, ça, c'est quand même pas extraordinaire. Là, c'est quand même... C'est la deuxième preuve d'amour, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est la deuxième preuve d'amour envers l'écologie, après quand même avoir dénoncé le traité européen sur le glyphosate. Donc, je trouve qu'ils écrivent une histoire, voilà, qui, à partir d'un dossier un peu pourri dont ils héritent, ils trouvent un moyen d'écrire une histoire, parce que franchement, d'un point de vue écologique, on ne va pas refaire le débat, encore une fois, mais cet aéroport, visiblement, ça n'avait aucun sens. Donc là, au moins, la statisphésique de José Bové, etc., sur ces questions, ce qui est plutôt bien joué de sa part, vu que de toute façon, à droite, pour l'instant, il a plutôt séduit les électeurs.
La méthode Macron, Olivier Mazerolle, elle part aussi de conviction, selon vous, alors il s'adapte, il prend la température du terrain et après il adapte à...
Il a probablement des convictions, mais il est également extrêmement habile sur le plan politique. Je ne pense pas que l'écologie ait été la principale raison de la décision qui a été prise concernant Notre-Dame-des-Landes, mais il se trouve que politiquement, ça le sert. Donc, c'est pas un inconvénient. Mais cette méthode à laquelle il faut associer étroitement Édouard Philippe, d'ailleurs, parce que c'est quand même un homme qui sait mener ces discussions, écouter, avoir la patience, prendre le pouls des personnes qui sont concernées et qui nourrit finalement l'argumentaire, quelle que soit la décision prise. Aujourd'hui, il est en état de pouvoir défendre de façon très efficace la décision de renonciation à Notre-Dame-des-Landes, alors que s'il n'avait pas écouté, ça aurait été une décision venue de Paris, un oukase qui n'aurait pas été acceptable. Alors évidemment, bon, il y a des opposants à cette décision, c'est tout à fait normal, ils tenaient à l'aéroport. Bon, en plus, on voit bien que le mérite revient, finalement, ce gouvernement a réussi, et Emmanuel Macron a réussi à faire passer cette décision comme étant un acte de courage, par rapport notamment à François Hollande. C'est là, je veux dire, la comparaison avec François Hollande est évidemment lumineuse. Après,
le courage était de faire Notre-Dame-des-Landes.
Après, la question se pose sincèrement. Maintenant, il faut effectivement qu'il fasse preuve de fermeté à l'égard des zadistes, parce que sinon, ça apparaîtra comme étant une défaite en race campagne.
Vous parliez de Theresa May il y a un instant, Olivier Ravanello, avec le deal que fait actuellement Emmanuel Macron donc, en Grande-Bretagne sur les dossiers des migrants. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
Avec Anne Rosenchère, Olivier Mazerolle, Alexandre Malafaille, Olivier Ravanello, 19h49 sur RTL. L'entente cordiale, il y a deux choses que rien ne pourra changer, aucun vote, aucune décision politique. C'est notre histoire et notre géographie. Emmanuel Macron a donc été reçu par Theresa May pour le 35e sommet franco-britannique, une rencontre marquée par le dossier des migrants après la visite du président à Calais, c'était mardi. Le fameux accord du Touquet qui réglemente la gestion de la frontière franco-britannique a été complété. Les Anglais vont donc augmenter leur contribution financière de 50 millions d'euros. Alors est-ce que ça va changer quelque chose ou pas, Olivier Mazerolle ?
Dans l'esprit, non.
Non.
Voilà, on va avoir un peu plus d'argent, donc il sera peut-être encore plus difficile d'accéder au tunnel. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. La vraie question, c'est celle des mineurs isolés. Donc on voit que leur traitement va être amélioré. Ça veut dire que les Anglais vont accepter plus de ces adolescents dont les parents sont déjà en Angleterre. Et par conséquent, nous voulons, nous, Français, qu'ils soient admis en Angleterre. On va voir.
Ce qui, ça laisse entendre ça, non ? Un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile, ouais, ça laisse entendre
mais,
ça.
Mais là on est dans autre chose. On est, vous parliez de l'entente cordiale tout à l'heure, on est manifestement sur ce créneau-là. Emmanuel Macron veut indéniablement, alors qu'on est dans le Brexit, montrer que les liens entre la France et la Grande-Bretagne existent. Il y a l'histoire de la tapisserie de Bayeux que les Anglais voulaient récupérer. Eh bien, on va la leur prêter. Et vous avez vu la presse anglaise ? Extrêmement élogieuse, formidable. Macron, enfin, il a compris qui nous sommes, etc. Parce que c'est un élément, elle raconte un élément essentiel de l'histoire de l'Angleterre, qui est la conquête par les Normands. Donc on pourrait penser même qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais au contraire, ils sont très contents de récupérer, pour un moment, tapisserie. Donc, voilà, ça s'inscrit dans un deal global entre la France et l'Angleterre. Nous, on veut leur piquer la City et pas sûr qu'ils vont accepter en échange les mineurs isolés.
Olivier, cette rencontre donc May Macron et cette signature d'un traité sur le contrôle de l'immigration, c'est...
Elle change rien au principe, à la philosophie de base des accords du Touquet qui régissent nos rapports sur cette question avec les Britanniques.
Donc leur frontière, elle est chez nous, quoi.
Qui a une absurdité, c'est-à-dire pour être un peu caricatural, on fait le travail à leur place. Et la partie du travail qui est la plus ingrate, et en plus sans harmonie législative sur la manière dont vous traitez les gens. C'est-à-dire que vous faites la police, mais vous n'avez pas la même loi que ceux pour qui vous faites la police.
Vous pouvez rappeler, moi je suis incapable de le faire.
On est auxiliaire de police des Britanniques.
Pourquoi on a accepté ça ? Parce que l'accord du Touquet, ça, on l'a expliqué dans tous les sens, mais en revanche, on n'a pas bien expliqué pourquoi on a accepté de le signer, cet accord
du Touquet. Ça permettait de mettre fin à Sangatte.
D'accord.
À l'époque. Et puis, la pression migratoire était paradoxalement moins forte qu'on en est aujourd'hui.
Et puis, on dit qu'il y a eu même pas la guerre en Irak. Donc,
on dit qu'il y a eu un deal aussi, parce qu'il y avait des accords sur une grande centrale nucléaire à l'époque. Voilà. Enfin, ça a pu être aussi partie d'un deal. Comme d'ailleurs aujourd'hui, la déconstruction fait partie, on voit bien, d'arbitrage.
Et je pense qu'il y a quelque chose de foncièrement vicié dans cet accord-là, et que je suis pas sûr qu'il puisse être amélioré. Faudrait plutôt le dénoncer et revenir sur une interrogation, et qui pour le coup impliquerait toute l'Europe, de comment est-ce que non pas on gère la question des migrants, parce qu'on parle maintenant de plus d'un million et demi de personnes, donc ça se gère pas. Comment est-ce que ça se prend en compte? Qu'est-ce qu'on déploie comme moyen, et quelle est l'harmonisation à laquelle on est prête? Mais de négocier frontière après frontière, d'un côté avec l'Italie, de l'autre côté avec les Britanniques, et puis enfin c'est pas comme ça qu'on arrivera à avoir une réponse satisfaisante, à commencer pour les gens qui en subissent le pire, et qui se retrouvent dans ces situations là bloquées.
Quand un accord est mauvais, c'est très difficile de le renégocier, sauf si on est en position de force. Qu'est-ce qu'on est dans ce cas-là comme position ? On n'a pas de position de force. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Anglais, en tout cas sur ce dossier précis ? On va ouvrir les vannes ? C'est pas possible. Leur dire on va laisser passer les migrants, c'est moralement pas possible, juridiquement pas souhaitable.
Allez, beau people dans la Manche, c'est un spectacle épouvantable.
On est obligé d'assumer la situation telle qu'elle est. Et si on était à la place des Anglais, je pense que de toute façon, on aurait fait en sorte que la frontière soit pas chez nous, parce qu'une frontière en bout d'un tunnel, c'est pas non plus forcément très, très évident. Donc de toute façon, c'est assez insoluble. Histoire. Alors, améliorer l'accord par un peu un gain financier, pourquoi pas. Je pense que de toute façon, c'est très difficile. Et aller au bras de fer ou au clash avec les Britanniques sur un sujet comme ça, c'était sans doute dommage, parce que vous le disiez très bien, Olivier, tout à l'heure, c'est pas la peine d'insulter l'avenir. On a beaucoup de sujets, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça.
C'est marrant, il n'y a que les Britanniques qui sont autorisés à aller au clash et au bras de fer avec tout le monde. Et quand ils le font, on dit quand même, ils ont du courage. Mais quand c'est nous qui nous trouvons dans cette position,
on dit, on leur réclame un sacré chèque en échange du Brexit. Hein.
Non, oui, mais enfin, ils n'ont pas laissé le choix. Le bras de fer et le clash, c'est eux qui l'ont créé.
Non, mais attendez, ils ont pris leur destin en main, ils vont l'assumer, ça aura plein de répercussions, c'est une autre histoire. Là, on est sur un point précis, et après sur une relation bilatérale. La relation bilatérale, on ne va pas la faire capoter pour ça. On a énormément de sujets à discuter avec eux, et après, il y a effectivement ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Peut-être qu'en 2003, quand l'accord a été négocié, il y a toute une partie d'accords secrets ou d'autres accords qui ont été obtenus en contrepartie de ce fardeau qu'on gère, alors qui est un fardeau qui restera
peut-être
un fardeau.
C'est peut-être le moment de faire de la pédagogie et de le rappeler aux Français.
Je suis pas sûr qu'on a obtenu, Macron voit arriver Jeremy Corbyn, ait envie de voir arriver Jeremy Corbyn à la tête de la Grande-Bretagne.
Mais ce qui est sûr, c'est que la question...
Ça ne faiblissait trop, Theresa May.
La question des frontières qui ne se posait plus, enfin soi-disant on avait aboli les frontières, etc., est en train de se rappeler à la réalité ici et ailleurs. Et moi, je suis assez d'accord avec Olivier quand il dit qu'il va falloir prendre ça en compte dans une réflexion plus globale sur Schengen, sur en effet cet accord du Touquet dont on se dit que si on est un petit peu en rapport de force quand même, ils ont le Brexit à gérer, ils ont un pouvoir un petit peu affaibli, on a quand même des choses à faire valoir, on ne comprend pas pourquoi on devrait gérer la frontière anglaise à leur place, alors qu'on a quand même aussi d'autres situations
Techniquement, vous faites comment? Pardon, mais...
Eh ben, on dit à Theresa May, on se met autour d'une table et on n'en sort plus jusqu'à ce qu'on ait trouvé un accord, parce que là, franchement, c'est un accord à minima, hein. Ça fait un petit peu pétard mouillé.
Alors, un peu, oui. Enfin, peut-être qu'on va découvrir autre chose dans cet accord-là, parce que c'est les premières infos qui arrivent au fur et à mesure. Mais là, effectivement, c'est... Très rapidement, Benoît, sur les réseaux sociaux, on en dit quoi très rapidement?
En effet, les accords du Touquet vus par le spécialiste Olivier Kahn, ça donne la Grande-Bretagne nous paye pour que nous gérions sur notre territoire son immigration. Du coup, beaucoup s'écrient, hein, comme 12 France, bah c'est fini, qu'ils aillent tous au Royaume-Uni, bon débarras, ou comme Yves, laissons-les passer en Angleterre, bon sang, on leur doit rien à ces Anglais, ils ne sont plus dans l'Europe, ils ne vont pas nous faire la guerre. Super, les migrants passent la frontière et après, ils vont être conduits à celle la plus proche, la France, rétorque Martial. Oui, qu'arrivera-t-il à ceux qui vont être refoulés? Une partie de ping-pong avec pour balle des êtres humains, insiste Thierry. Qu'importe, l'important, estime Charbot, c'est que Macron ne trahisse pas les Calaisiens pour quelques deniers. Et enfin, Patricia rappelle à ceux qui pèsent contre les Anglais que la France impose la même chose aux Italiens à 20 milles. Ça fait drôle, hein, c'est pas simple, grince-t-elle pour finir.
Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est le flash de 20h avec Céline Landreau. Et ensuite, ça sera Jacques Pradel. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire de votre émission, l'heure du crime, ce soir.
Ce soir, une affaire jamais élucidée qui a marqué l'été 1978, l'assassinat dans son restaurant gastronomique de Vanves d'un ancien cuisinier du président Pompidou, François Doublet, exécuté d'une balle dans la nuque alors que son épouse Larissa, ancienne star du cinéma soviétique, donnait le biberon à leur bébé à l'étage.
On s'en souvient, on écoute tout ça après le flash de 20h.